Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans ni maître ni publicité. Et donc nous abordons le livre de Gérald, ce soir un livre de Gérald Bronner, La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques au puf. Voilà, vous venez d'entendre les thugs radicales. Un petit morceau comme ça, et ce soir donc il y a Sophie qui va nous parler du livre de Gérald Bronner, il y a aussi Pierre-Yves qui va parler aussi sans doute un peu, on l'a invité à le faire en tout cas, et vous avez José au platine qui lui va sans doute hurler de temps en temps. Voilà, il a hurlé, ça y est.
J'ai pas encore parlé, attends.
Donc le livre de Gérald Bronner. Alors bon, on a failli s'entretuer avant d'en parler. Mais le truc, c'est que Gérald Bronner, il a été invité un petit peu sur toutes les radios. Son bouquin vient d'être édité, et donc on l'a invité à parler de tous les extrémistes auxquels on pensait actuellement, c'est-à-dire ceux qui prennent des kalachnikovs et qui vont tuer des gens aux terrasses des cafés. Mais il se trouve que quand lui il l'a écrit en 2009, il pensait sans doute pas à ça. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait de parler vraiment du livre. Et puis ensuite, en fin d'émission, on s'engueulera. Voilà. Pour dire toutes les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et tout, pourquoi on pense que l'autre il a vraiment tort et qu'il faudrait le tuer. Enfin, non, j'ai pas dit ça, pardon. Je ne suis pas un extrémiste, certainement.
Chapitre
1. Chapitre 1, voilà. Donc c'est Sophie qui a fait les frais de tout ça et c'est elle qui va parler aujourd'hui.
Ah, j'ai rien fait du tout. Moi, j'ai proposé le livre, donc je suis très contente de l'avoir fait. C'est parfait, on va s'engueuler, je suis très contente. Donc, La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Et effectivement, c'est un livre qui a été écrit en 2009. Alors il y a une troisième partie, bon moi j'avoue que j'ai pas tout compris, mais en tout cas la majeure partie du texte est vraiment très intéressante. La première question que pose Gérald Bronner, c'est: est-ce que les extrémistes sont des fous? Et alors il regarde la définition du dictionnaire, il prend plusieurs définitions. Il cite par exemple un zèle outré, souvent cruel, mon dictionnaire de l'Académie française. Mais pour lui, c'est pas très complet tout ça. Alors il cite Durkheim qui dit qu'on doit plutôt ne pas accepter une définition qui relève du bon sens ordinaire. Pour lui, il va commencer par questionner cette définition qui relève du bon sens. Parce que si on fait ça, on va accepter des idées, par exemple, selon lesquelles les enseignants sont plus déprimés que les autres, qui ne sont pas des idées qui sont... tiennent vraiment la vérification. Et il pose une question, c'est: est-ce que il faut se demander si le croyant, enfin si la personne qui croit en cette pensée adhère vraiment à sa croyance. Donc ça, c'est la question de la conditionnalité. Est-ce qu'il y croit vraiment? Et qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour sa croyance? La deuxième question qu'il pose, c'est... Enfin, la deuxième question que pose cette définition, c'est la condition dimensionnelle, ce qu'il appelle la condition dimensionnelle, c'est-à-dire que notre accès à l'information est limité, parce que tout simplement on est limité dans le temps et dans l'espace. Et là, il parle par exemple de tous les fantasmes qu'on pouvait avoir sur l'an 2000, quand on imaginait que des gens allaient être dans des voitures volantes.
Et où sont les combinaisons, où sont les pilules?
C'est ça,
je suis très déçu.
La vision d'hier, de demain, en fait. Et donc là, il dit, voilà, c'était clairement la condition dimensionnelle c'était lié à la condition dimensionnelle de la croyance. Il pose ensuite la question des limites de notre rationalité. Par exemple, vous avez une radio qui se met à plus très bien marcher. Vous donnez un coup de poing dessus, puis là, ça se remet. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a une sorte de court-circuit dans la radio. Donc, le problème se représente, 10 minutes après, vous allez retaper dessus. Et puis, vous ne comprenez pas du tout ce qu'il y a dedans, parce que ça touche aux limites de ce qu'on peut savoir. Mais un jour, vous donnez le coup de poing de trop, puis vous cassez la radio. C'est-à-dire que c'était quand même finalement assez limité. Et puis enfin, il parle de notre culture, mais pas du tout au sens où on serait passé de primitif à cultivé, ce qui nous rendrait moins croyants. En fait, pour lui, c'est une erreur de penser ça. Il dit que pour comprendre une croyance... Parce qu'il parle vraiment pas mal des définitions de la croyance et ce qui nous mène aux croyances, c'est un peu son dada. Il faut faire l'effort de reconstruire l'univers culturel qui inspire cette croyance. C'est comme ça que, par exemple, les personnes qui sont en Inde dans les castes les plus basses sont celles qui sont plus pour le maintien de ce système de castes. Donc il faut faire l'effort de reconstruire cet univers. Il pose la question de la compréhension comme complicité. Il dit: est-ce que quand on comprend, on est complice? Il dit clairement que non. Ça, c'est la deuxième petite partie de la première partie. Mais il y en a certains qui pensent ça.
Comprendre, c'est excuser.
Voilà.
Bon, effectivement, il y a des imbéciles à tous les niveaux du gouvernement, mais ça, on le savait depuis longtemps. Hein.
Mais quand même, il clarifie les choses.
Il faut les comprendre. Ils n'ont pas reçu une formation forcément adéquate.
Il faut comprendre comment on appelle ça, le système, l'univers culturel qui a inspiré cette croyance. Et donc, il nous parle ensuite de rationalité et d'extrémisme. Alors, pour lui, la première idée là-dessus, c'est que la crédulité n'est pas nécessairement l'expression de bêtises ou d'un manque d'éducation. Et c'est même plutôt parfois le contraire. Il parle d'un truc intéressant qui s'appelle le moon hoax. Je pense que vous connaissez le moon hoax.
A priori non, mais raconte-nous ce que c'est.
C'est très marrant, le moon hoax. Alors c'est en 1835, une série d'articles qui ont été publiés dans l'Edinburgh Journal of Science, dans un supplément. Apparemment. Et alors c'est un article une série d'articles d'astronomie entre le 25 et le 31 août 1835, des récits de ce qu'on pouvait trouver sur la Lune, qu'on aurait soi-disant exploré à l'aide d'un télescope révolutionnaire. Alors on parlait de la végétation lunaire, on parlait des habitants de la Lune aussi. Alors il y en avait qui apparemment étaient très 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 beaux, des hommes ailés, doués de raison, puis il y avait des hommes chauves-souris aussi. On trouvait des chèvres unicornes, des bisons de petite taille. Et alors, l'opinion bientôt appelait ces habitants de la Lune les Sélénites. Comme dans l'imaginaire biblique, en fait, il y avait donc deux aspects. Ceux qui avaient les ailes de chauve-souris et qui étaient couverts de poils, des sortes de singes améliorés, en fait. Et puis d'autres qui avaient des figures angéliques et qui étaient caractérisées par une infinie beauté. Et donc, ça s'est appelé le moon hoax. Et alors... Ce récit, très long, enfin en plusieurs épisodes, publié en France et aux États-Unis, on aurait pu s'attendre à ce que ses lecteurs le prennent pour ce qu'il était, c'est-à-dire un canular, mais pas du tout, ça a très très bien marché. Et l'article est plein de détails techniques, donc c'est super intéressant, c'est très marrant. Et pourquoi ça a bien marché? Alors, il faut s'interroger sur le 19e siècle, la Lune, qui est un peu un objet de rêverie, en fait, un sujet de rêverie, notamment scientifique. C'est-à-dire que beaucoup de scientifiques ont envie de savoir ce qui se passe sur la Lune. Et il y a ici une réaction de Edgar Poe, qui lui-même a été coupable de plusieurs canulars pseudo-scientifiques, apparemment. Je ne savais pas. Et qui dit pourquoi que finalement, ceux qui doutaient, il y en avait quand même qui doutaient de ce canular, enfin, qui doutaient de cette histoire de Lune, mais ils ne savaient pas pourquoi ils doutaient. C'est-à-dire qu'ils étaient pas, ils étaient plutôt ignorants en fait, ceux qui doutaient. C'était plutôt les gens qui savaient pas, qui savaient rien sur l'astronomie et qui ne pouvaient y croire. Pourquoi ? Parce que les idées étaient trop nouvelles, trop en dehors des choses nouvelles, enfin des choses qu'ils connaissaient, pardon.
C'est curieux parce que tu as des romans sur les voyages sur la Lune. C'est Cyrano de Bergerac déjà qui fait ça.
Ben ouais, mais sauf que ceux qui étaient ignorants, c'est qu'ils n'avaient pas lu ces romans non plus, je pense.
Oui, mais est-ce qu'ils avaient lu les articles en question portant sur les sélénites ?
Non, je pense qu'ils en avaient lu des comptes rendus, tu vois. C'est-à-dire que oui, si un truc a résonné de cette revue pseudo-scientifique, ou scientifique en tous les cas, c'était un canular, c'était dans une revue scientifique, si ça a ricoché, entre guillemets, dans des...
Oui, ben ça circule, c'est-à-dire voilà. Les gens en parlent.
Voilà, les gens en parlent, et puis ceux qui ne savent pas, ben, finalement, ils se mettent à douter, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils doutent. Et en fait, les gens les plus instruits, ils étaient complètement fascinés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faisait preuve d'une grande curiosité. Donc c'est là que Gérald Bronner nous parle de... nous dit qu'il y a rarement un lien, en fait, entre l'adhésion à des croyances douteuses et un manque d'éducation. Et finalement, c'était... Quand on a l'impression que ce sont des esprits immatures qui vont être croyants, qui vont être plutôt croyants, qui vont avoir tendance à la superstition, etc., finalement, il dit que c'est une croyance sur la croyance d'autrui. Donc, il nous cite oui, une étude.
Ceux qui croient des choses dans lesquelles je ne crois pas sont forcément stupides.
Oui, c'est forcément ça. On a l'impression que ce sont forcément des
ignorants. Non, mais attends,
c'est
vrai.
Alors, peut-être, je ne sais pas trop. Il cite une étude, j'essaye d'être consensuelle. Il cite une étude de 1986 de Bois et Michelet sur les parasciences et le niveau d'études. Très intéressant. Est-ce que, à mesure que le niveau d'études augmente, il y a une diminution de croyance au paranormal ou en astrologie, ou à l'astrologie ? Pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à au plus croire.
Il paraît que c'est du côté des littéraires qu'on croit encore le plus à l'astrologie. Ou,
c'est exactement ça.
Voilà, comment ça s'appelle déjà la médecine bidon là, qui,
L'homéopathie ?
Voilà, c'est ça. C'est celle qui permet à certains laboratoires de s'enrichir, tout en disant que les autres méchants laboratoires s'enrichissent.
Exactement. Mais parce qu'eux, ils vendent que de l'eau et du sucre, au moins. Voilà. C'est l'idée. Mais effectivement, il y a un classement par ordre décroissant de croyances. Ceux qui ont tendance le plus à croire au paranormal ou à l'astrologie sont ceux qui ont fait des études supérieures non scientifiques. Donc supérieures quand même. En 2, on trouve ceux qui ont fait des études secondaires. En 3, ceux qui ont fait des études primaires supérieures. Et en 4, ceux qui ont fait des études primaires. Donc ça confirme effectivement ça. Il dit hein, effectivement qu'il y a, pour ce qui est de la croyance, probablement des manipulables, des gens qui sont fragilisés psychologiquement, mais pas seulement.
Non, ce serait trop facile. Parce que...
Non, voilà, exactement. C'est-à-dire que l'extrémisme n'est pas lié à un faible niveau scolaire. C'est lié... Alors
là, grosse question.
Attention, oui, c'est lié à plein de choses, mais ce qu'il faut avoir, déjà pour une croyance, avant d'aller dans l'extrémisme, pour lui, déjà pour une croyance, il faut avoir une certaine disponibilité mentale consistant à aller vers un élargissement de sa connaissance. Et là, il utilise une métaphore que je ne connaissais pas. C'est une métaphore de Pascal, apparemment, la sphère du connaître.
Ah oui, les différentes sphères chez Pascal.
Ben, c'est-à-dire que notre connaissance, en fait, ça serait comme une sphère, et à mesure que notre connaissance grossit, on se rend compte, la surface de la sphère grossit, et notre connaissance, elle est en contact avec tout ce qu'on ne connaît pas. Donc finalement, tout ce qu'on ne connaît pas, ça nous apparaît encore plus évident à mesure qu'on en sait un petit peu plus.
Plus j'en sais, donc, plus je sais que je ne sais rien.
C'est exactement ça.
Donc, si j'ai bien compris, ce qu'il dit, c'est que c'est le désir de connaître qui est la cause qui est aussi un désir de s'illusionner.
Paradoxalement, oui, ça a l'air un peu contradictoire.
C'est sûr que si tu veux rien savoir, tu vas pas croire grand chose. Alors que si t'es curieux et que t'as envie d'en savoir davantage, tu vas forcément croire des conneries dans l'eau. Forcément, c'est inévitable.
Le progrès des lumières est aussi le progrès du délire.
En partie, sans doute, oui.
En partie, il le dit pas, mais effectivement, on peut penser ça, puisque finalement, on se dit, à mesure qu'on est ouvert à ce genre de nouvelles idées, on se dit pourquoi pas. Pourquoi en l'occurrence le cas du Moon Hoax ? Parce qu'on est familiarisé avec l'histoire des sciences, d'où la différence avec l'enseignement supérieur scientifique, qui effectivement était le plus petit, enfin le plus loin de croire à l'astrologie en fait, ce qui semble tout à fait logique. Et c'est là que on continue et que Bronner nous explique que l'extrémiste, donc il s'approche petit à petit de la définition de l'extrémiste, il y va pas directement, satisfait les critères de la rationalité. certains critères, en tous les cas, les critères d'une certaine rationalité.
Donc l'extrémiste n'est pas fou.
Non, l'extrémiste n'est pas un fou, pour Brodeur, sans qu'il exclue qu'il y ait des extrémistes fous.
Oui, mais ça c'est une autre question.
C'est une autre question, et pour lui c'est plutôt à la marge en fait. Il parle de cohérence notamment.
Qu'il y a plein de fous très modérés aussi, donc ça n'a sans doute rien à voir en fait, la question de la folie de l'extrémisme.
Ça a peut-être rien à voir, ouais, effectivement. En tout cas, lui,
ce qui est intéressant là-dedans, pour le coup, même si je suis très très sceptique sur la tentative est intéressante, mais discutable d'objectiver l'extrémisme, qui est un truc qui est très très largement relatif à mon sens, mais en même temps ne pas le pathologiser, ça je crois que c'est dans le contexte actuel, en gros ne pas dire que le type avec lequel on n'est pas d'accord est un fou, un malade ou un ceci, c'est vrai que ça peut sembler d'une évidence pour des gens relativement progressistes, mais par les temps qui courent,
je suis pas sûr que ça soit une majorité en fait, parce que
c'est tellement fréquent de disqualifier la position d'autrui en le traitant de fou, d'imbécile ou de malade que...
Et même quand sa position est disqualifiable, c'est-à-dire pourquoi on va dire qu'un terroriste, par exemple, est un fou, c'est parce qu'on n'a pas envie de considérer qu'il est humain. On n'a pas envie d'imaginer qu'on a quoi que ce soit en commun avec lui.
C'est comme quand on dit que les nazis sont des monstres. Tout le problème, c'est de comprendre pourquoi c'était des êtres humains.
Mais exactement. Et je pense
pourquoi des êtres humains peuvent en arriver là.
En un sens, c'est ce qu'il essaye un peu de faire dans la deuxième partie du livre. Il dit que pour lui, alors... La rationalité, c'est une composante de l'extrémisme au sens où les extrémistes utilisent des moyens adéquats finalement pour parvenir pour la poursuite de leur fin. Alors, il se défend quand même d'être relativiste. Il explique que justement, il faut surtout pas dire que l'extrémiste, c'est celui qui pense pas comme moi. il le précise. Alors je cherche exactement comment il le dit parce que je trouvais qu'il le disait plutôt pas mal. Voilà. Alors, ce qu'il dit, c'est... il rappelle une évidence. Donc, il dit... nous trouverions injustifié la conclusion d'un observateur qui, sur la base de l'absurdité apparente de ce mythe, il parle d'un mythe avant sur la virginité de la Vierge Marie, ferait des chrétiens des idiots ou des fous. Voilà. Et il dit, en rappelant cette évidence, je ne veux pas défendre une position relativiste qui affirmerait qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les croyances de l'individu, entre guillemets, normal et celles de l'extrémiste, et que nous ne sommes jamais que les fous et donc les extrémistes des autres. Il veut juste souligner le fait que révoquer le relativisme n'implique pas qu'on oublie la relativité de certains de nos jugements et de nos indignations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il nous parle de la façon dont fonctionnent certains arguments de persuasion, en fait, pour nous pousser vers les croyances. Il parle, par exemple, d'un terme que j'ai relevé, qui est « intelligence en essaim », notamment sur Internet, avec des arguments extrêmement nombreux et extrêmement intimidants, qui tout seuls ne tiennent pas la route. Mais qui, pris ensemble, en fait, finissent par former quelque chose qui ressemblerait à des preuves. C'est là qu'il parle pas mal des théories du complot, justement, parce que pour lui, les théories du complot, le passage vers les théories du complot, sont un passage quasi, extrêmement fréquent, en tout cas, de ceux qui ont sombré dans le terrorisme islamiste. Ils sont quasiment tous passés par les théories du complot. Et il y a notamment...
Tous ceux qu'on a pu étudier,
ouais, effectivement. Il n'y en a pas tant que ça, puisque...
Voilà. Ils ont tendance à mourir. Je sais pas pourquoi.
Ça, c'est bizarre. parce que la fin, ils utilisent les moyens adéquats, en fait. et donc, il raconte une anecdote assez marrante sur Daesh, qui a été obligé d'interdire l'accès à Internet pour ses combattants, parce que certains d'entre eux, qui étaient contaminés par la théorie complotiste, selon laquelle l'État islamique serait une création de la CIA, ont voulu abandonner leur poste, en fait. Ils ne voulaient plus travailler pour Daesh. Il nous parle aussi de l'assassin d'Itzhak Rabin.
Ah oui,
il décortique ça vraiment très très en détail. C'est très très intéressant. Je n'avais aucune connaissance là-dessus, qui s'appelle Yigal Amir. Il explique comment il en est arrivé là, en fait, et à son propos. À propos de ce Yigal Amir, il dit que son discours est d'une extrême cohérence. Je trouve que l'expression est intéressante parce qu'on l'emploie souvent sans y faire attention. Il parle même d'une cohérence qui est presque inhumaine, presque de rationalité mécanique n'acceptant aucun compromis. C'est-à-dire que si on pose par exemple la question « Est-ce que tu souhaites sauvegarder la planète ?» Alors, il y a beaucoup de gens qui vont répondre « Oui, je souhaite sauvegarder la planète. » Et finalement, pour l'extrémiste, ce qui va faire la différence, ça va être que tout compromis va être une compromission et qu'il existe la vérité unique.
Ouais, on retombe sur des vieux trucs en sociaux. Il cite jamais Weber ?
Si, il cite pas mal Weber.
Ouais. C'est pas étonnant.
Un peu, pas tout le monde.
Éthique de la responsabilité, éthique de la conviction ?
Un peu, un petit peu.
C'est-à-dire que selon lui, l'extrémiste, c'est toujours quelqu'un qui est plutôt du côté de l'éthique de la conviction, j'imagine.
Alors ça, il le dit pas dans le livre.
Ouais.
Il le dit pas dans le livre.
Alors, j'explique vite fait parce que là je balance ça sans rien
oui,
dire.
Tu
mais
peux expliquer, c'est intéressant.
Donc l'éthique de Weber, c'est un sociologue allemand de début 20e siècle qui va distinguer deux formes d'éthique. Ce qu'il appelle l'éthique de la responsabilité, c'est une éthique qui s'interroge davantage sur les conséquences de ses actes que sur les principes qui les motivent. C'est-à-dire ce qui compte, c'est moins pourquoi ce que je fais ceci cela que quelles sont les conséquences de mon action. Et puis ce qu'il va appeler l'éthique de la conviction, c'est une éthique qui va au contraire s'attacher aux principes, quels que soient les conséquences. Et il a tendance à rattacher l'éthique de la conviction à des positions souvent religieuses qui vont dire si j'ai échoué, si ce que j'ai fait a horriblement mal tourné, c'est pas de ma faute, c'est parce que les hommes sont mauvais, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi, etc., etc., etc. Et très souvent l'éthique de la conviction n'accepte justement aucun compromis puisque ce qui la caractérise, c'est la pureté des principes.
Il parle de pureté beaucoup, mais par contre je suis pas sûr qu'il parle de... Je pense que je sais pourquoi il ne fait pas cette distinction. Il ne parle pas de cette distinction. En tout cas, c'est parce que il dit que les terroristes, pour la plupart, en tout cas ceux qui se font sauter, ceux qui sont prêts à mourir pour leur cause, ils savent très bien quelles conséquences ça peut avoir.
Oui.
Ils le savent parfaitement. Mais juste, ce sont des conséquences qui sont moins importantes que.
Alors ici, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui invalide l'action.
Voilà. Et il n'y a rien qui invalide.
Effectivement, justement, pour quelqu'un animé par l'éthique de la conviction, les conséquences n'invalident jamais l'action.
Voilà. Mais les conséquences, ils sont au courant, ils savent très bien.
Justement, c'est ce que. Alors, Weber, après, il a toujours tendance à faire des distinctions comme ça qu'il va appeler des idéotypes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il sait bien que jamais personne n'est purement du côté
pour
de l'éthique de la conviction.
Oui, bien sûr.
C'est une histoire de mélange. Après, ça lui sert à distinguer, à polariser le champ des actions à expliquer. Voilà.
Et l'idée, c'est ça, en fait. Voilà. Si on est tous d'accord pour la plupart que c'est bien de sauver la planète, qu'est-ce qu'on...
Sauf les pandas.
Tu veux pas sauver les pandas ?
Non.
D'accord. En fait, la question, c'est que si l'extrémiste, en fait, il va dire que si on adhère réellement à son idéal, on peut pas souffrir un compromis. Parce que, pour lui, voilà, c'est une compromission. Et finalement, c'est comme ça que l'extrémiste peut en venir à s'attaquer à tous, et non pas seulement à ses cibles. Exemple, le terroriste qui va s'attaquer uniquement, à quelques politiques qu'il a envie de tuer parce qu'il pense que ce sont eux l'ennemi. Il y a un pas qui est franchi avec le terroriste qui va s'attaquer à des innocents. Et pourquoi le terroriste va s'attaquer à des innocents ? Parce qu'ils sont coupables aussi, en fait.
Bah oui.
Bah oui, voilà. Mais
c'est ce que disaient les types au Bataclan, genre vous payez pour la politique qu'a menée votre président, celui
c'est
que vous avez élu.
Ouais, ouais.
Bon.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer qui va finalement renforcer l'idée du terroriste qu'il a raison de faire ce qu'il fait ? Il parle du biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est, pour simplifier un petit peu les choses, je pense, c'est quand on va chercher des informations qui ne vont faire que confirmer ce qu'on pense déjà, en fait. Et alors ça, il dit qu'on en est tous un peu coupables, quand même, qu'on est tous là-dedans.
C'est clair, c'est un des biais les plus fréquents en matière cognitive.
Il dit pas qu'on est tous des extrémistes, mais il dit tous qu'en revanche, on a tous vraiment cette tendance-là.
Ah, c'est simple, voilà, moi, pour chercher des informations sur ce qui se passe dans le monde, je vais pas lire des journaux de droite.
Exactement.
Tout simplement parce que dedans, je vais tomber sur des choses que je pense a priori être fausse, et j'ai bien raison d'ailleurs, mais tout de suite là, je savais pas qu'on avait invité un droitier dans l'émission, quelle horreur. Sécurité.
Non, je lis pas non plus les journaux.
Mais bon,
c'est... mais moi je les lis, mais je lis tout le spectre. Je lis absolument tout le spectre de tous les journaux, mais après certains plus que d'autres évidemment, bien sûr. Et alors du coup, c'est quoi la pensée extrême?
On en arrive à une définition juste avant la pause musicale.
Ouais. Alors, enfin non, en fait non, on va peut-être faire la pause musicale d'abord, parce que d'abord il commence par réfuter trois définitions.
Ouais, d'accord. Bon, petite pause musicale, et puis ensuite on définit ce que c'est qu'un extrémiste. Alors moi ça m'intéresse parce que je me demande si j'en suis pas. Let's do it with them.
pardon me, President Reagan, but who are the terrorists now? This isn't a movie we're making. Who are the terrorists now? Touch and dry, rub and dry, Tesco tanks are mobilized. Why not send them boots of light, force is a voucher. Gun planes, naval planes, so about the nation's name. So the dying can refuse to blame. Hey there, President Reagan, well who are the terrorists now? This isn't a movie we're making. Who are the terrorists now? Expert in excess of overkill, who doesn't do show goodwill? Other nations acquiesce, at Sitka we bang our chest. Why earn a family's wrath when Eastside has the last laugh? And fuck with the Netflix's banner, who are the peacekeepers now? And somehow we're blaming the Russians, asking who are the terrorists now? No profits in weapons reductions, so who are the terrorists now? Those who voted for Reagan, who are the terrorists now? Areas of peace are forsaken, cause we are the best, fuck all the rest, just we are the chest of the terrorists now!
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité et sans extrémiste. J'ai promis juré.
Donc, pas sûr.
Vous écoutez Jeudi Noir et vous venez d'entendre deux morceaux, un morceau de Victims Family, Nazi Inside My Head, et un morceau de MDC, Who's the Terrorist Now. Donc deux groupes fameux, universellement connus des années 90. Et nous parlons ce soir, Sophie nous parle d'un livre de Gerald Bronner, un sociologue, qui s'intitule La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, édité au PUF donc en 2009 et réédité récemment. Donc là, Sophie se proposait de définir ce que c'était qu'un extrémiste. Alors moi, j'ai très très peur.
Non, pas moi, Gerald Bronner.
D'accord.
il commence par réfuter trois définitions. La première, c'est une définition juridique. Disons que ce serait l'État qui possède le monopole du recours à la violence, mais comme il y a des États qui utilisent la violence, ça ne fonctionne pas. La deuxième, c'est la peur, la question de la peur, mais ça aussi, il dit, c'est un des modes opératoires classiques des rapports entre États, l'intimidation par la violence. Donc ça fonctionne pas. Et enfin, la méthode qui serait contraire à la morale. Mais ça aussi, pour lui, c'est inopérant. Par exemple, la question de la torture, pour lui, c'est des définitions qui sont inopérantes. Donc, qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise d'abord la question de l'adhésion inconditionnelle à la croyance. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il en reparle pas mal.
Donc, inconditionnel, c'est-à-dire que je crois sans condition.
Sans condition.
C'est que je crois parce que je crois. Voilà.
Je crois et je crois rien d'autre.
D'accord.
Surtout, je crois rien de contradictoire.
Et rien ne peut faire vaciller ma croyance.
Absolument rien.
Premier temps. D'accord.
Et il nous parle ensuite, alors, d'une notion que j'ai trouvée pas forcément évidente à comprendre, c'est la transsubjectivité. Pour lui, quand on va vers l'extrémisme, en fait, c'est que, alors, il distingue quand même la nature des croyances, c'est-à-dire il y a le fait de croire en quelque chose de radical et le fait d'y croire de façon radicale. Ce qui est, les deux sont intéressants. Et en fait, finalement, c'est un peu, si j'ai bien compris, la conjonction des deux qui va nous pousser vers l'extrémisme, en sachant que moi, j'ai pas compris qu'il y avait des extrémistes et des non-extrémistes. J'ai plutôt compris que c'était sur un spectre, en fait. J'ai pas compris que c'était dans une nature ou non, en fait.
Il y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré.
Les deux, peut-être les deux en fait finalement, parce qu'il fait un tableau à deux entrées qui est intéressant justement pour... Il y a peut-être la question à la fois de la nature et du degré, mais pour moi c'est vraiment plus une question de basculement, parce que c'est ce qu'il dit, c'est des hommes ordinaires en fait, donc il n'y a pas des hommes d'une nature différente. Et donc il parle de transsubjectivité, et il nous parle d'une notion qui est l'IMN, c'est l'individu mentalement neutre, ça serait celui qui ne serait pas...
J'ai peur celui-là, c'est qui, c'est François Bayrou?
Je crois qu'il n'existe pas en fait.
C'est juste un idéal type.
Ouais, je crois que c'est un idéal type qui n'existe pas vraiment, parce que ça serait celui qui est totalement insensible au biais cognitif en fait, et à tout ce qui peut influencer sa croyance en fait. Ça serait quelqu'un qui comprendrait totalement la transsubjectivité. Et donc,
un sociologue.
Alors non, je pense pas qu'ils se mettent dedans, enfin je sais pas en fait.
D'accord, oui, non, mais peu importe, c'est une blague, c'est le côté, d'accord, c'est une espèce de norme abstraite qui va poser comme ça.
Oui, c'est ça, c'est une norme abstraite, voilà.
Donc, celui qui raisonne correctement en fait.
Ben, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou en tout cas, celui qui va être apte à comprendre quand une croyance est transsubjective. Voilà.
Alors, transsubjectif ici,
alors, transsubjectif, ça veut, donc transsubjectif, c'est ce qui transcende notre subjectivité, c'est-à-dire,
d'accord,
voilà, ce qui peut être compris au-delà de notre subjectivité. Okay. Par exemple, une croyance qui n'est pas du tout transsubjective, ou vraiment très peu transsubjective selon Gerald Bronner, c'est le fait d'être fan de Johnny Hallyday. Par exemple, ça c'est pas du tout transsubjectif, c'est très peu transsubjectif. Il parle de valeurs faiblement transsubjectives.
C'est plutôt une blague.
Un peu, mais quand même.
Je pourrais dire que peut-être peut-être que quelque chose de transsubjectivement nul, ce serait, je sais pas, moi je crois qu'il existe des cercles carrés.
par exemple. Mais
comme personne ne peut concevoir, imaginer un cercle carré, si j'ai cette conception-là, il y a fort peu de chances que j'arrive à partager ma conviction avec d'autres individus.
Effectivement, et ce qu'il dit, en fait, c'est que finalement, l'énoncé le plus transsubjectif, c'est celui qui sera vrai, en fait. Par exemple, un cercle, c'est un cercle, hein, tu vois. Donc, ça serait quelque chose comme ça.
C'est quelque chose, le plus transsubjectif, ce sera quelque chose que personne ne peut nier.
Voilà, d'accord. Effectivement. Et donc, là, il dit, hein, pour lui...
Qu'est-ce qu'il a choisi, José Kiral?
Il a dit
s'appelle objectif.
Oui, transmissible.
Je suis assez d'accord avec José.
Transmissible et peut-être quelque mais chose qui serait plus
alors, c'est pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'objectivité? J'en ai discuté un petit peu avant l'émission avec Sophie. Oui. Je pense que c'est parce qu'il parle de jugement de valeur. Ouais. Et que dans le cas des jugements de fait, du type il y a une table devant moi, là, la transsubjectivité, effectivement, ce serait un mot compliqué pour dire objectivité. Oui. Dans le cas des jugements de valeur, ça devient plus compliqué. Ou dans le cas des objets idéaux qu'on peut observer, c'est compliqué de parler d'objectivité, surtout quand on est sociologue et pas philosophe passionné par l'ontologie et le discours sur l'être et le non-être.
Alors il ajoute par exemple une petite distinction entre le fondamentaliste, contrairement au terroriste, il dit en fait, pour lui, le fondamentaliste c'est un extrémiste qui refuse de s'abandonner au potentiel agonistique de sa vision du monde. Ça c'est pour... Il ajoute sur...
agonistique, si ça veut dire pour entrer en combat avec. Voilà. C'est la guerre.
Il parle des croyances sociopathiques et peu sociopathique, c'est-à-dire que finalement il y a...
Donc on en revient quand même à la pathologie là.
Alors
comment est-ce qu'il définit la pathologie?
Alors il définit pas la pathologie justement.
Oui, parce que sociopathe...
C'est dommage, j'ai perdu la page justement, mais il ne définit pas justement, il réfute la définition je pense traditionnelle de la sociopathologie pour ne pas tomber dans ce biais-là qui consistera à faire des terroristes des malades. Ce qu'il dit c'est en fait, pour lui la définition de la sociopathie que j'arrive pas à retrouver, c'est que c'est à quel point on est prêt à... on n'arrive pas à vivre avec les autres en fait.
D'accord.
Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Alors je sais pas, je pense pas que ça soit une définition orthodoxe de la sociopathie.
C'est
mais
pas
en
une
cas,
définition psychiatrique en tout cas.
Non, il n'en donne pas une définition psychiatrique du tout. Il dit voilà, si on ne peut pas vivre avec les autres, si en fonction de sa croyance.
Est-ce qu'il n'y a pas la violence qui rentre en jeu?
Aussi, il en parle aussi.
C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que j'arrive à vivre avec des gens qui ne partagent pas mes croyances?
Oui, est-ce que dans quelle mesure tu vas les tuer en fait?
C'est ça.
Voilà. Tu vas les tuer un peu, tu vas les tuer beaucoup. Donc il parle par exemple, il fait un tableau très intéressant avec plusieurs entrées, donc croyances relativement transsubjectives, c'est-à-dire ce qu'on arrive à admettre malgré notre subjectivité. Donc il parle de la pensée ordinaire, hein, des choses qui ne nous coûtent pas grand-chose à admettre. Voilà. Et puis il parle aussi par exemple de l'égalitarisme, de la lutte pour l'indépendance de certains pays, qu'on arrive plutôt bien à admettre. Et après il les classe en fonction de est-ce qu'on est peu sociopathique ou très sociopathique. Et donc là c'est... voilà. Et finalement le plus extrémiste ça sera pour lui des croyances qui sont peu transsubjectives.
D'accord. Il y a des croyances qui sont difficiles à partager avec d'autres.
Voilà, comme par exemple les collectionneurs extrêmes. Il en parle aussi, c'est pour ça que quand il parle des fans de Johnny, c'est pas qu'une blague en fait. Il a étudié ces gens-là, il a fait des études à long terme sur ces gens-là. Le fondamentalisme, et donc là où on bascule vers les croyances sociopathiques, c'est quand on bascule vers le terrorisme. Donc c'est pas du fondamentalisme, on franchit une étape de plus. Donc ça c'est la notion clé, voilà, la notion de transsubjectivité. Maintenant, comment on bascule, en fait? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Et je vais essayer d'aller assez vite. C'est la moitié du bouquin. Mais paradoxalement, c'est ce qu'il lit le plus vite. C'est ce qui se lit le plus vite. Il parle d'un paradoxe. Il dit, rien ne nous prédispose à devenir un extrémiste, pas même notre milieu familial. Pourtant, on ne peut guère imaginer d'engagement plus total et plus contraignant que celui que réclame la pensée extrême. Alors, d'où ça sort, finalement? Comment on y va?
Un truc qui m'avait semblé intéressant quand j'avais lu des choses sur ce bouquin quand même et que t'as pas trop insisté là-dessus ou peut-être que je rêvassais quand tu l'as dit, c'est que ce qui semblait caractériser la pensée extrême, c'est que d'un côté elle est très très logique et de l'autre côté elle a tendance à nier les faits.
Elle nie complètement les faits qui ne sont pas dans son système, bien sûr.
Et donc ici on a affaire à un système qui en philosophie classique on dirait c'est rationnel et c'est pas raisonnable.
Ouais, exactement. Alors il dit pas raisonnable parce qu'il n'est pas philosophe. Oui. Je pense que c'est pour ça.
Je pense que c'est ça c'est une distinction classique qu'on fait en philosophie entre pour aller vite, la raison théorique et la raison pratique, le rationnel et le raisonnable. Et il y a des choses qui peuvent être totalement rationnelles et totalement déraisonnables. Par exemple, un paranoïaque, au sens si clinique du terme,
sera totalement rationnel,
mais aussi parfaitement déraisonnable. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'extrémisme, c'est une forme de... c'est quelque chose qui a une base rationnelle trop limitée. C'est un comportement qui n'est pas suffisamment basé sur des informations.
Ouais, mais c'est un peu ce qu'il dit quand il dit que les terroristes, en fait, le problème des terroristes et des extrémistes, et ensuite des terroristes, bien sûr, c'est qu'ils sont enfermés dans une sorte d'oligopole cognitif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux façons de s'en libérer, en fait.
Alors après, le problème, c'est que ça, c'est une position, excuse-moi, Pierre, qui est très relativisable à partir du moment où tu vas dire que bah, plus t'as d'informations, moins t'es extrémiste.
Il n'est pas ça non plus, parce qu'il est pas, en fait, il tranche pas sur grand chose, je trouve, dans ce livre, et c'est ça qui, pour moi, fait son mérite, c'est qu'il n'est pas très dogmatique sur les diverses façons d'aller vers l'extrémisme qu'il donne. Donc, par exemple, il parle de première. Pardon, tu voulais parler.
Non, c'est bon, j'allais dire à peu près la même chose.
D'accord, Michel. Désolé.
Première façon de basculer, c'est un escalier à petite marche. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites. Il parle beaucoup des sectes, vous faites recruter par les sectes. Ils vont d'abord vous offrir des cours de yoga gratuits ou des cours d'anglais gratuits dans le cadre de la scientologie, des tests de personnalité gratuits, c'est très cool. Donc vous commencez par méditer au cours de yoga gratuit, puis ensuite, petit à petit, on vous fait méditer vers la photo du chef de la secte. Et puis vous vous en rendez pas compte, vous vous dites mais pourquoi pas, il a l'air sympa, voilà. Deuxième. Donc
là, je commence à m'inquiéter, pourquoi est-ce que vous m'avez offert une photo de Michel?
Ben rien, c'est comme ça, c'est... On fait à tous les gens qui rentrent ici.
Tu sais qu'il y a cours de yoga après, par contre, t'es au courant. Il y a yoga et après on a méditation.
Ensuite, t'as une photo de José.
Donc ça, c'est un mécanisme incrémental pour lui, qui n'est pas toujours linéaire d'ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Il parle de l'art aussi, de l'art extrême. Ces gens qui en sont venus, je crois, à déféquer sur scène, en fait, alors que d'autres personnes étaient en train de battre encore d'autres personnes. Donc c'était de l'art. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? Parce que c'était né d'une contestation de ce qu'était l'art à la base. Donc finalement, tout ça, c'est de la faute de l'impressionnisme, au départ.
D'accord.
Mais il parle de toutes petites étapes. Oui. On est allé vers l'impressionnisme, et puis ensuite, on est allé vers quelque chose... Voilà, qui semblait acceptable. Chaque marche de l'escalier parle de quelque chose qui est acceptable. Il parle de comment Dieudonné s'est radicalisé aussi pour lui. D'accord. Les étapes, les toutes petites étapes qui ont conduit Dieudonné à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Alors qu'au départ, Dieudonné était plutôt quelqu'un qui était de gauche. Donc c'est des mécanismes vraiment très intéressants à analyser. Ensuite, deuxième façon d'aller dans l'extrémisme, c'est d'être dans un oligopole cognitif. C'est l'adhésion par transmission. Ça, c'est typiquement ce qui va se passer dans certaines sectes où les enfants naissent dans la secte. Mais il dit, même ça, c'est incomplet parce qu'il y a toujours des gens qui s'en sortent. Donc on ne peut pas forcément dire que ça fonctionne à plein. Même si ça fonctionne. Il parle pas mal du marché cognitif, c'est-à-dire l'offre cognitive, ce qu'on nous donne comme information. C'est là qu'il parle du groupe et de la famille comme quelque chose de très important. C'est-à-dire que le groupe, l'extrémiste, en fait, se recrée une famille. Il dit que finalement, cette famille de substitution devient plus forte que la famille originelle. Et c'est ça qui est...
Ce qui peut faire partie des critères. C'est-à-dire souvent, on repère dans les parcours sectaires la rupture avec la famille ou avec les amis intérieurs.
Parce qu'on vous explique que ce n'est pas votre vraie famille, que votre vraie famille, c'est celle qui vous aime. Donc, il parle même de love bombing par les sectes qui vont vous bombarder d'amour, littéralement. Vous expliquez que vous êtes très aimé. Et il y a aussi la pression des pères. Mais pour lui, alors, il relate l'expérience de H. Et ses limites, c'est-à-dire quand on avait un sujet et trois autres, ou quatre autres, ou cinq autres, qui disaient, on leur montrait des lignes en fait, et on leur disait voilà, c'est laquelle la ligne la plus longue, classer ces lignes par ordre de grandeur. Et puis, il y avait un seul sujet de l'expérience, mais ils ne savaient pas qu'il était le seul sujet de l'expérience et que les autres étaient des complices. Et les autres en fait savaient qu'ils devaient dire le contraire de la vérité, pour voir à quel point le premier sujet était influençable. Et en fait, on se rend compte qu'on est influençable, mais que jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où. À partir du moment où il y a trois personnes qui sont contre nous, qu'il y en ait trois ou qu'il y en ait huit, en fait, ça ne nous rend pas beaucoup plus influençables. Et il y a quand même toujours deux tiers des gens environ qui ne changent pas d'opinion quand ils sont face à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Troisième moteur du glissement vers l'extrémisme, la frustration. Et c'est là que...
Ça explique tout.
Voilà. J'étais sûre que tu allais dire ça. J'étais sûre que tu allais dire que ça expliquait tout. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il passe son temps justement à dire qu'il ne nie pas les questions sociales, en fait, de masse même. Enfin, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, ça, c'est des analyses macro, qu'il est... Il ne dit pas qu'il est compétent pour faire, donc il ne fait pas forcément, mais il parle pas mal de la frustration et d'un sentiment d'un ressentiment qui se développe individuel et collectif. Et c'est là qu'on peut voir l'intérêt, en fait, dans des phénomènes de revendication collective. Il cite une étude de James Davis qui dit qu'un mouvement de protestation sociale a d'autant plus de chances de survenir lorsqu'il est précédé d'une crise économique elle-même consécutive à une longue période de croissance et de prospérité. Et il dit, en fait, le problème, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, elle crée des attentes.
Bah oui.
Et voilà. Et donc... Finalement, nos attentes, elles sont élevées. Et quand on se rend compte que nos attentes ne sont pas remplies, qu'est-ce qui se passe? On est frustré. Donc la frustration, finalement... Alors, il ne dit pas qu'il est contre la démocratie, mais il dit que la démocratie, elle suscite ces attentes-là. Et que finalement, il parle par exemple de postes à responsabilité prestigieuse, d'avoir un bon travail prestigieux. Et il dit, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si on arrivait à augmenter le nombre de postes prestigieux? Est-ce que ça résoudrait le problème de la frustration. Il dit que non, parce qu'on veut pas avoir, on veut avoir un tout petit peu plus que les autres.
Le problème de la distinction qui est un problème fondamental en sociologie.
Voilà. Donc il dit ça en fait. Et sur la question des identités aussi. Donc c'est là qu'il parle pas mal finalement de Daesh et de Al-Qaïda et de tout le storytelling de Al-Qaïda pour surfer justement sur cette frustration. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Et enfin donc pour lui donc voilà ça cette frustration elle est inhérente à la démocratie.
C'est intéressant parce que moi j'ai souvent pensé que si on vivait dans une société où les conditions économiques et sociales étaient un peu meilleures, où on avait peut-être un véritable espoir d'alternance politique de temps en temps, il y aurait sans doute moins de tarés religieux fanatiques, mais il y en aurait quand même.
Il y en aurait quand même. Ouais.
Parce que ils seraient simplement peut-être moins nombreux.
C'est exactement
C'est-à-dire
ça.
Que parce qu'il y en aurait qui seraient en train de râler contre le confort moderne qui nous affaiblit, etc., etc., qui nous empêche de devenir des hommes, des vrais, je sais pas, un truc.
Je pense que c'est un peu ça qu'il dit en fait.
Ouais, moi je comprends pas pourquoi c'est la démocratie qui pose problème. Est-ce que c'est pas plutôt la promesse de réussite sociale? Enfin, la démocratie, oui. Elle te donne pas, elle te
d'égalité.
Propose juste, elle te promet une égalité,
bah ouais.
Une capacité de décision.
Mais imagine que
pas supérieure aux autres, alors que il y a autre chose qui.
Mais quand tu vois, t'as moins que les autres. C'est ça le problème, c'est quand tu vois que t'as pas ce minimum là.
Mais c'est plutôt du côté des biens, des prestiges, des trucs comme ça.
Pour ce Moyen-Âge, une société d'ordre. Tu nais paysan, ouais. Tu sais depuis le départ que tu vas crever paysan. Et donc, à la base, t'as zéro espoir.
Ouais, il faut avoir un destin individuel,
c'est ça.
Au moins espéré. Ça. Pour, ouais.
Voilà. Et par exemple, il dit, c'est assez marrant, parce que si on regarde le nombre de gourous de sectes qui étaient avant des chanteurs ratés, comme Raël, par exemple, qui a fait 45 tours.
Raël, c'est un exemple magnifique.
Raël, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a David Koresh aussi, qui était la secte des Davidiens de Waco, au Texas, quand cette grange qui avait brûlé, c'était tragique. Il avait tenté sa chance à Hollywood et dans la chanson. Et le grand maître de la scientologie a lui-même entamé une carrière d'écrivain avant sa lucrative entreprise sectaire. Donc finalement, il y a pas mal la question de la frustration qui est là. Et enfin, dernier point pour lui, c'est le dévoilement ou la révélation. Ça, c'est quand ça vient d'un biais qui est. C'est quand on refuse en fait d'envisager le hasard, l'importance du hasard. Et c'est le biais souvent de négligence de la taille de l'échantillon. On a l'impression qu'on voit des signes en fait. Donc pour lui c'est ça qui peut mener à ces quatre points qui peuvent mener à l'extrémisme. Et alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça c'est sa conclusion. Il dit en fait est-ce qu'on peut discuter avec un extrémiste? Il dit que c'est très compliqué. Il dit que pour lui les extrémistes en fait n'ont pas vécu une éclipse de leur conviction morale. Donc c'est assez important aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que pour eux, ils se comportaient de façon très morale.
Oui, c'est souvent le cas. Effectivement, il y a très peu, tout le monde est plus ou moins le héros de sa propre histoire, et il y a personne ou presque personne ne se voit comme le méchant. C'est-à-dire que ils cherchent à faire le bien, quelles que soient les atrocités qu'ils peuvent commettre, dans plein de cas en tout cas.
Mais c'est compliqué. Par exemple, si on veut attaquer sous l'angle de... Il dit que pour lui, l'angle le plus compliqué à attaquer, c'est l'angle de la frustration. Parce qu'il dit qu'il voit mal comment convaincre un individu que sa vision extrême du monde ne l'aidera pas, en fait, à résoudre ses problèmes identitaires. Et qu'il faudrait être en mesure, pour lui, d'affaiblir, par exemple, son désir de reconnaissance. Ou de lui faire admettre qu'il ne mérite pas mieux que ce qu'il a. Ce qui paraît difficile.
On va peut-être voir ça pour la troisième partie de l'émission. Ouais. Et après, une pause musicale. Et puis, on en discutera un petit peu.
We'll be right back.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est la troisième partie donc, de la présentation du livre de Gérald Bronner, La pensée extrême, par Sophie. Et là, donc, on a abordé le problème intéressant et sans doute insoluble, en particulier dans le cadre d'une émission de radio, mais même encore dans le cadre d'un livre de sociologie très savant. C'est le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos extrémistes dangereux. Bon, en admettant que nous ne soyons pas des extrémistes, ce qui reste à prouver. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'était un petit peu, on a discuté véhémentement avant l'émission, parce que Gérald Bronner a écrit ce livre de façon complètement indépendante du contexte actuel en 2009, mais avec ce qui s'est passé cette année avec les attentats, ben il s'est retrouvé invité dans toutes les émissions, on a réédité son livre et il a été question qu'il participe à des espèces de centres de rééducation idéologique, de déradicalisation. Alors on a eu des émissions, vous pourrez voir, vous pourrez retrouver ça sur internet si vous cherchez. Et c'est vrai que ce terme-là pose problème, mais c'est qui ce facho quoi.
Mais lui-même dit que le terme pose problème en fait. Ouais.
Moi je crois que la question que vous posez c'était comment on va faire pour déradicaliser Manuel Valls ou Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut y arriver?
moi je crois pas, hein, franchement. Moi je veux bien les envoyer dans des camps de rééducation. Non, surtout pas, non, j'ai pas dit ça parce que je suis pas un extrémiste.
Alors, il te dirait en fait que le problème c'est celui de l'abandon de la croyance. Comment est-ce que tu convaincs un croyant d'abandonner des idées qui sont les siennes
et qui structurent et qui font très très fréquemment son identité.
Et sachant, plus, voilà.
Déjà, il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question du droit.
Oui, c'est-à-dire il dit l'implication déontologique. Il dit je n'irai pas là-dedans parce que c'est une question épineuse. Il veut se concentrer de façon purement spéculative sur les problèmes techniques.
D'accord.
Lui, ce qui l'intéresse, c'est la technique, en fait, je pense.
Ouais, alors ça, j'y crois pas trop, moi. Mais. Pour ce type de question, oui, je vois ce qu'il veut dire, mais ce type de question a toujours, quelles que soient les bonnes intentions du théoricien, elle a toujours des implications pratiques. C'est-à-dire qu'il peut donner les meilleures idées du monde, il peut être sûr qu'elles sont reprises par un docteur fou quelconque.
Mais après, est-ce que c'est une raison pour pas réfléchir à ce que tu fais concrètement?
Non, certainement pas. Mais tu vois, ça pose tout un tas de problèmes, je pense, qui sont vraiment très très compliqués. C'est-à-dire, sachant que t'as des gens qui, par exemple, vont adhérer à des sectes, qui vont se ruiner, qui vont se foutre en l'air leur vie pour ces sectes-là.
Mais après tout, ils ont le droit.
Après tout, qui on est pour leur interdire? Alors c'est très compliqué parce qu'en même temps, on pourrait se dire, il faut les protéger s'ils sont mentalement fragiles. Mais après, comment est-ce qu'on définit mentalement fragile? Bon, ça, c'est une horreur, déjà, pour commencer. Ensuite, tu as ceux qui sont éventuellement, qui adoptent des croyances qui les rendent éventuellement dangereux pour les autres. Donc là, c'est un problème. Le problème est un peu plus simple parce qu'il ne s'agit pas simplement de quel droit est-ce qu'on a de les convaincre qu'ils ont tort, mais quel est aussi notre devoir de protéger ceux qui pourraient menacer. Bon. Donc là, c'est peut-être un peu plus simple.
C'est coûteux, apparemment.
Et c'est douteux. La question de légitimité ici n'est pas forcément très compliquée. Après, la question des moyens, jusqu'où est-on prêt à aller pour protéger les gens, devient très très compliquée.
C'est très coûteux. Alors, il parle des programmes de réintégration saoudiens pour les anciens détenus de Guantanamo. Alors, il y a eu à peu près, sur les 500 prisonniers libérés de Guantanamo, il y a eu 6% qui ont repris une activité terroriste, mais pour les Saoudiens, 0%.
Ils leur ont coupé la tête ?
Non, pas du tout, ils sont encore vivants. Enfin, peut-être pas tous, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, le régime a mis en place des moyens pour réintégrer les brebis égarées, être sûr qu'ils n'aillent pas refaire du terrorisme. Alors, je précise qu'il ne fait pas du tout l'apologie du régime saoudien.
Quand même. Ce serait inquiétant.
Mais il constate quand même qu'il y a 0% de récidive chez les Saoudiens. Il leur propose un traitement VIP. Il leur verse une allocation mensuelle. Il leur propose un emploi. Donc il y a quand même quelque chose d'en prendre soin, enfin ça se dire voilà, s'en occuper pour ne pas qu'ils fassent une...
plutôt que de les jeter dans un trou.
C'est ça.
Ouais.
Et donc même une aide pour trouver une épouse apparemment, donc je sais pas trop s'il y a une sorte de mythique pour les anciens prisonniers de Guantanamo, je sais pas du tout comment ça se passe.
En même temps, les anciens prisonniers de Guantanamo, je suis pas sûr que ce soit une bonne population d'études.
Non,
parce
c'est vrai,
que combien étaient réellement extrémistes parmi eux? Les Américains ont arrêté un peu n'importe qui.
Il dit, alors il y en a eu 500, donc je sais pas non plus, mais il y en a un ancien qui était un vrai terroriste, qui témoigne pour le coup, qui dit, notre gouvernement offre aux gens l'occasion de corriger leurs erreurs et de recommencer une nouvelle vie, de comprendre l'islam et le gouvernement, c'est la seule solution possible au terrorisme. Alors c'est un ancien terroriste qui dit ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, en tout cas, c'est une porte de sortie qui a été trouvée par certains gouvernements, dont Bronner dit de toute façon c'est trop cher, ça coûte trop cher de faire ça pour les familles qui ne peuvent pas se payer ce genre de
choses. Ah oui, pour les familles, oui. Bien, parce que franchement, on a combien d'extrémistes supposés français en Syrie?
Non, bien sûr, mais c'est une logistique.
Un petit millier.
C'est une logistique quand même.
C'est une grosse logistique, mais...
Donc c'est, ouais, c'est un petit peu compliqué. Puis il dit...
bah, c'est sûr que si on les menace de déchéance nationale, de prison à vie ou d'internement dans des dans, comment dire, dans des prisons spéciales, il y a peu de chances qu'on arrive à déradicaliser entre guillemets les mecs en question. Ça, je pense que ça peut être un a priori assez sûr. Voilà, plus on les menace, moins il y a de chances de les ramener à des opinions moins violentes.
Et alors il termine sur deux points. Il dit tout ce qui est suggéré par lui ne l'est qu'à titre spéculatif. Et malgré les problèmes déontologiques, en fait, il n'est pas du tout... il peut quand même donner quelques pistes, en fait. Mais il dit vraiment le gros problème déontologique pour lui, c'est la technique du déprogramming, en fait. C'est ce qu'a fait un certain Ted Patrick. Une procédure très brutale qui consistait à kidnapper les gens qui avaient été victimes de sectes. Et donc ça, ça marche. Alors il dit... Et en plus, il y a eu un taux d'échec assez élevé. Parce que finalement, Ted Patrick exerçait sur les individus une sorte de monopole cognitif provisoire. Donc c'est un peu de la contre-manipulation qui est de la manipulation aussi.
En fait, c'est Orange Mécanique. On t'accroche et on essaie de t'imposer des idées qui ne sont pas les tiennes de l'extérieur.
Voilà. Et donc ça, il dit que ça ne marche pas. Il dit est-ce que la fin justifie les moyens mais quand même, il faut distinguer entre le cas où l'extrémiste ne constitue aucun danger ni pour les autres ni pour lui-même. Il croit inconditionnellement à des choses extravagantes, mais il nuit à personne. Et à ce moment-là, pourquoi choisir pour lui ce qui doit être sa vision du monde.
Ensuite, il y a un autre gros problème ici qui est en sous-main, c'est qu'on vit quand même dans une société où on accepte de plus en plus l'idée qu'on a le droit d'arrêter et de condamner les gens avant qu'ils commettent quoi que ce soit.
En prévention.
Préventive. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, politiquement, c'est un peu du suicide pour les gens qui dirigent et qui veulent continuer à diriger, à se faire élire, etc., etc., à plaire dans la presse, à plaire dans les sondages. Je pense que c'est quasiment, ils peuvent plus dire que il faut attendre que quelqu'un commette un crime, mais en même temps on vit dans une société de fous de ce point de vue-là, parce que ça veut dire qu'on a quasiment légalisé le délit d'intention. Et ça, je trouve que c'est quand même très très grave. Et pour le coup, tu vois, c'est à la limite même se poser la question. Enfin, après, on en revient à des trucs très classiques qui sont quelle dose de liberté on est prêt à sacrifier pour notre sécurité. Je me dis que là, on est quand même arrivé à un stade où on est quand même prêt à sacrifier beaucoup, beaucoup de liberté dans notre sécurité.
Au niveau de l'État, mais après, je pense qu'il se pose la question, lui, en tout cas pour le travail qu'il a pu être amené à faire, je pense, récemment, au niveau des familles. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais quand ton enfant revient tu peux dire que il n'est en danger ni pour lui-même ni pour les autres, il ne nuit à personne. Pourquoi est-ce que je vais lui imposer une vision du monde? Peut-être qu'il a choisi, ça le rend heureux, même je déplore, mais peut-être qu'il préfère ce bonheur-là. Mais quand c'est quelqu'un dont tu es proche, je pense que c'est plus compliqué que quand tu spécules.
Je crois aussi, mais c'était juste une remarque. C'est quand même très très gênant, ne serait-ce que tu vois ce type, voilà, à la limite les types qui sont partis en Syrie, si on avait reconnu l'état de Daesh, qu'on leur déclare la guerre officiellement, là on a des procédures juridiques très très simples.
C'est
de la trahison. C'est de la trahison.
Bien sûr, elles existent, les procédures.
Donc dans un contexte étatique banal, voilà, t'es un traître, donc on va te juger en tant que traître. Là, comme on n'a pas reconnu l'état islamique, comme on n'a pas reconnu leur avoir déclaré la guerre, finalement on est dans une position juridique floue, mais qui nous amène à condamner davantage des intentions supposées parfois, que des actes proprement dits, des délits commis, ou des délits ou voire des crimes commis sur le sol français. Et je trouve que c'est quand même très très gênant en termes de liberté publique, parce que pour l'instant, et encore pour l'instant, ça va, oui, non, ça va pas, parce que là, on empêche des gens l'état d'urgence a permis d'assigner à domicile des tas de gens qui n'avaient strictement rien à voir avec l'état islamique ou avec le terrorisme, en gros des militants anti-OGM. Et ce genre d'appareil législatif, il est toujours justifié au nom de l'exception réellement dangereuse. Parce que c'est clair que les combattants de Daesh, c'est pas nos amis. c'est même pas à discuter, quoi. C'est pas nos amis. Bon, c'est des religieux fous. On ne peut pas être d'accord avec eux. Mais, pas fous, mais enfin, qu'on a un système
rationnel.
Qui est tellement en opposition avec le nôtre qu'on ne peut pas du tout l'accepter.
Mais qu'on ne peut pas discuter, puisqu'ils sont dans leur système.
Et qu'on ne peut pas discuter. Et en même temps, ils servent à justifier un appareil législatif dont on ne veut pas non plus, quoi. Qui permet d'assigner à résidence, de fliquer tout un tas de gens qui n'ont absolument rien fait.
Oui, bien sûr.
Et qui justement limitent les luttes dans des limites presque légales contre des choses.
Il dit qu'en fait on se retrouve confronté à un dilemme qui caractérise souvent l'extrémisme, c'est la fin justifie-t-elle les moyens. Paradoxalement, on se retrouve avec le même
diable. Mais lui, il va justement être amené à intervenir dans des espèces de centres fermés.
Alors, le problème, c'est que je ne sais pas s'ils existeront, ces centres, du coup, puisque Dunia Buzar a annoncé qu'elle se retirait de sa mission gouvernementale. Alors, elle va faire ces centres, je pense, parce qu'elle va quand même les mener, mais elle veut plus. Je crois qu'elle ne prend plus les subventions. En tous les cas, elle ne veut rien avoir à faire avec le gouvernement pour la question de la déchéance de nationalité. Donc, finalement, je ne sais pas du tout s'ils vont avoir lieu, ces centres, ou pas.
Ok, donc c'est
en plus. J'ai pas d'infos là-dessus.
Parce que vu ce qu'il en disait dans une émission, je ne citerai pas, il avait l'air un peu emmerdé parce que on lui disait justement qui accueillir dans ces centres. Donc c'est pas des gens déjà radicalisés parce que ça marcherait pas avec eux. Donc ce seraient des gens en voie de radicalisation, mais ça pose plein de problèmes. Comment est-ce qu'on les repère? Avec quels moyens? Une fois qu'on les a repérés, comment est-ce qu'on les, entre guillemets, déradicalise? Il parlait, lui, de négociations coercitives, quand même. C'est-à-dire que, mais là, encore une fois, c'est dans ces problèmes de conviction, j'ai tendance à croire que plus t'es coercitif, moins t'es efficace.
Mais il le dit aussi, je pense que là-dessus, il doit voir les contradictions du truc, parce qu'il dit aussi que ça risque de radicaliser encore plus les gens, d'accélérer leur radicalisation. Donc il dit, est-ce qu'on doit faire la méthode du contre-feu, c'est-à-dire finalement faire semblant de suivre la personne qui se radicalise et d'être tout à fait d'accord avec lui?
Moi, je dirais que le problème, il est plus fondamental. Là, on traite, comme d'habitude, on traite les symptômes. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde de merde où les gens sont pas contents et ils cherchent des moyens d'exprimer leur mécontentement. Et parfois, dans ces moyens, il y en a qui sont.
Franchement, ça, c'est l'entrée frustration.
Ouais, ça, c'est l'entrée frustration, mais j'y crois beaucoup, moi, l'entrée frustration.
Mais pas que l'entrée frustration.
Je sais, mais ça, je crois que ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de boulot.
Ouais, la question, dans la réponse, me paraît claire, c'est est-ce que l'État, est-ce que c'est l'État qui doit être chargé de faire changer les idées des gens qui sont trop frustrés? Est-ce qu'on doit.
C'est ce qu'il dit, est-ce qu'il dit qu'on doit leur dire finalement tu mérites rien de moi, tu dois l'accepter? Il dit qu'on ne peut pas dire ça à quelqu'un, c'est pas possible.
Non, et puis c'est pas à l'État de changer nos idées non plus. Non.
Ouais, il considère quand même qu'il va pouvoir entrer dans une structure qui va pour objectif que des jeunes qui pensent mal se mettent à penser bien, c'est-à-dire tel que l'État français le définit bien.
Je pense pas qu'il dise ça. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'il dit dans sa conclusion.
Non, c'est parce qu'il a accepté. C'est le processus dans lequel il semble être.
Après, est-ce que tu vas dans un truc dans lequel t'es pas forcément d'accord en te disant je peux peut-être apporter des choses, je peux peut-être apporter un éclairage intéressant. Donc ça serait ce que c'est un compromis, c'est une compromission.
Je suis un extrémiste, moi je suis un peu pour la politique de la chaise vide dans ces trucs-là, mais je voudrais rien avoir à faire avec un centre de rééducation quelconque.
Ouais, moi je crois que je suis une traître en fait, mais.
Traître à quoi? Mais
je sais pas trop, dans l'absolu, je sais pas.
Alors, je ne sais pas du tout si les camarades d'Entre Chiens et Loups sont déjà parmi nous, il ne semblerait pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, les amis.
Je pense.
Et puis, donc, on va se retrouver dans 2 semaines. Je ne sais pas encore quel thème. Voilà.
Je vais mettre du son. Juste une petite chose, un petit conseil bouquin aussi, un roman de Norman Spinrad sur ce sujet-là qui s'appelle Oussama. Donc un bouquin qui suit le parcours d'un gamin qui vient des Émirats, non du califat, c'est un peu de la politique fiction aussi, et qui se retrouve à Paris dans un milieu des extrémistes djihadistes parisiens, alors que lui vient des djihadistes du califat, et qui se retrouve confronté justement à ce qu'on appelle le choc des civilisations. Et pour le coup, lui, il le vit dans un choc de civilisation intra-islam. Donc c'est assez rigolo, on le suit à travers toutes ses pérégrinations jusqu'à ce qu'il devienne un héros justement du combat de l'islam en Afrique au cours de différentes guerres, etc. Et un bouquin épatant, voilà.
Voilà, donc vous pouvez écouter cette émission, elle est en podcast sur le site de Gurdulu, donc vous tapez Gurdulu, Jeudi Noir, et vous tomberez sur notre site avec des petites illustrations, les références musicales, et tout, voilà, donc on se revoit dans 2 semaines, et passez de bons moments d'ici là.
espérer l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, être là pour se taire ou pour en découdre. Envie de changer de décor, quitte à ce que ça crame autour. Faudra bien que pour nous, tôt ou tard le vent tourne. Alors ne pas se restreindre, à gueuler dans son coin. Envie d'unité, de débat et faire ça avec soin. Envie d'étrangler ce monde dès demain pour en faire sortir l'injustice tapis en son sein. Je suis sincère quant à mes envies, ne prône pas la non-violence comme Gandhi. Les grandes disent la révolution, quand t'es ado, ça me fait toujours vibrer. Et c'est pas prêt de s'arrêter quoi que t'en dises. On s'enlise dans le marasme, mais la mort nous fait de l'œil. Une vie a évolué dans la crasse, alors les fruits de la colère, je cueille. Marque leurs flics, nous casse, et que la liberté ils effeuillent. Puisqu'à nos tours on craque, laisse des larmes sur le seuil. Envie d'insoumission, de soulèvement et de rébellion. Envie de réflexion, de vivre autrement, d'un peu d'action. Envie de laisser un monde plus clean aux mômes. Envie de faire voler en éclats leurs normes. Envie que le capital se pète la gueule. Envie d'ouvrir les portes de toutes les tôles. Envie d'être entouré autant que d'être seul. Envie que la vie m'enlise comme un lit de l'envie de pousser les coups de gueule. Envie de vivre à fond en attendant la mort. Envie d'action et qu'elle résonne plus fort. Je vois plus le phare, l'histoire je la connais par cœur. Et déjà repéré le parcours. À la fin y'a que des idées sombres qui t'entourent. Je speed parce que je sais que le temps tourne. Profite de chaque moment de bonheur quand j'en trouve. J'en trouve les yeux sur ce monde qui part en vrille. Les mots me rêvent que de belles bagnoles. Les tiennes qui brillent, quitte à finir derrière des grilles. La machine les graille et à chaque fois moi ça me fout la trouille. Les valeurs se brouillent, les conditions de vie se décralent. Et on se demande pourquoi ça part en couille. Je continue à rêver, cet engrenage se rouille. Envie que plus de voix s'éraille, à force de gueuler. Envie que les murs de la forteresse s'écaillent, s'effritent et finissent par tomber. Envie d'insoumission, de soulèvement et de rébellion. Envie de réflexion, de vivre autrement, d'un peu d'action. Envie de laisser un monde plus clean aux mômes. Envie de faire voler en éclats leurs normes. Envie que le capital se pète la gueule. Envie d'ouvrir les portes de toutes les tôles. Envie d'être entouré autant que d'être seul. Envie que la vie m'enlise comme un lit de gnôle. Envie de pousser les coups de gueule. Envie de garder le contrôle, même quand la pression monte. Envie de bouffer tout le gâteau, même quand les portions se comptent. Envie de tourner le dos au rat, pousser les biceps compte. Envie que la thune dans ses zips prenne moins de tasse et s'estompe. Envie de parler de la crasse d'une vie et de ne pas en faire qu'une estampe. Et que ça sonne dans tes oreilles comme un coup de poing dans la tempe. Prenne à foutre du grand soir et de passer son temps à l'attendre. Tape chaque jour comme un chien pour que ces quelques mots s'entendent. Que l'on soit 1, 2, 3, plein et que les puissants en tremblent. On arrive en trombe, même si sur scène on n'est pas 30. On fait du bruit comme 100, histoire de remonter la pente. La route sera peut-être longue, mais coûte que coûte on la arpente. À chaque chanson, assiste et mon attente, CMR est toujours dans la danse, attentif au cas où tourne la chance, méfiant car la violence est latente. Envie d'insoumission, de soulèvement et de rébellion. Envie de réflexion, de vivre autrement, d'un peu d'action. Envie de laisser un monde plus clean aux mômes. Envie de faire voler en éclats leurs normes. Envie que le capital se pète la gueule. Envie d'ouvrir les portes de toutes les tôles. Envie d'être entouré autant que d'être seul. Envie que la vie m'enlise comme un lit de gnôle. Envie de pousser les coups de gueule. Coups de gueule.